Dieu soit béni pour sa présence. Notre âme se délecte de la présence de notre Seigneur qui est fidèle. Il est celui qui est au milieu de nous et nous ne voulons pas qu'il y ait de distance entre nous et le Seigneur. On a des distances entre nous à cause du coronavirus, hein, mais le Seigneur n'est pas atteint par cela. Et nous ne voulons pas qu'il y ait de distance entre nous et le Seigneur, que son nom soit glorifié. Nous allons de suite ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre des juges. Le livre des juges au chapitre 9 et nous ferons notre lecture à partir du verset 7. Juges 9, verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez. » « Réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec ? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbaal et sa maison ? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus, car mon père a combattu pour vous ? Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils 70 hommes sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il avait été votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. » Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Amen. Il est important, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de savoir ce qu'elle a à nous dire pour nous aujourd'hui. Et pour cela, il est important de savoir dans quelle histoire un texte se trouve, dans quel contexte il se situe, et de se placer devant le Seigneur afin qu'au travers de cette histoire dans sa globalité, nous puissions en retirer quelque chose de concret pour notre vie afin que nous puissions l'appliquer. Alors nous allons resituer cette parabole de l'Ancien Testament, parabole prononcée par un fils de Gédéon, surnommé Jérubbaal, et c'est Jotham, ce fils. Jotham avait d'autres frères qui ont tous été tués par un demi-frère, Abimélec. Aussi, Jotham, au travers de cette parabole, va prononcer une malédiction sur Abimélec et les habitants de Sichem, puisque sa mère, Abimélec, était de Sichem. Nous sommes à l'époque des juges. Il y a eu plusieurs juges, notamment Gédéon, qui était surnommé Jérubbaal, puis d'autres vont suivre. Certains sont plus connus que d'autres, comme Samson, comme Éhoud, et puis d'autres sont moins connus. Jamais dans le livre des juges, Abimélec est nommé juge. Il n'a pas été juge. Il n'a pas été un de ces libérateurs comme Gédéon, comme Samson, comme Éhud et comme bien d'autres encore à cette époque-là. Abimélec, qui a tué ses 70 frères, est plutôt un brigand qui a usé de manigances politico-religieuses pour tuer ses frères et se faire passer pour un roi. Et il va se mettre d'accord, il va faire une alliance avec les habitants de Sichem qui y trouvent leur compte aussi dans cette affaire-là, puisqu'ils vont avoir une position, j'allais dire, d'autorité, de supériorité dans ce territoire. Mais ce n'était pas de bonne foi, d'où la malédiction de Jotham qui va malheureusement se réaliser. Vous savez, Dieu sonde les cœurs et il connaît les raisons et les motivations réelles de nos intentions et de nos actions aux uns et aux autres. Jotham, dans cette parabole tout à fait particulière, va parler de trois espèces d'arbres plus une autre. Les trois premières, très communes dans la parole de Dieu, sont l'olivier, le figuier, ainsi que la vigne. Trois arbres emblématiques de la parole de Dieu, trois arbres qui évoquent la bénédiction de l'Éternel. On va y revenir un peu plus en détail. Et puis, il y a une autre espèce d'arbre, ou plutôt, comment dire, d'arbuste, le buisson d'épines. Et dans la parole de Dieu, il est question aussi du buisson d'épines, si les trois premiers arbres sont emblématiques par rapport à la bénédiction de l'Éternel, le buisson d'épines, lui, est emblématique parce qu'il porte les stigmates de la malédiction depuis la chute d'Adam et d'Ève. Alors parlons de l'olivier, et avant cela, j'aimerais dire une chose, que l'essentiel de notre message ce matin va s'axer sur la réponse que vont donner ces trois arbres, trois réponses quasiment identiques, que vont donner ces trois premiers arbres aux autres arbres qui représentent le peuple de Sichem, qui veulent, à chaque fois que le figuier, la vigne, l'olivier règnent sur eux, ils vont dire à chaque fois « renoncerai-je ». Et nous allons nous focaliser sur cela ce matin. Parlons de l'olivier. L'olivier, nous savons que c'est un arbre très connu de la parole de Dieu. On en trouve beaucoup dans le Midi. On en trouve beaucoup, bien sûr, sur le territoire d'Israël, surtout le pourtour méditerranéen, on en trouve énormément. Il en est question souvent dans la parole de Dieu, l'huile que l'on fait avec, très utile pour l'alimentation, mais pas que, pour beaucoup de choses, et nous voyons cela dans la parole de Dieu. L'huile qui est aussi, cette huile qu'on va tirer des oliviers, va être aussi et est le symbole du Saint-Esprit dont nous ne pouvons pas nous passer, nous ne pouvons pas nous passer de l'onction du Saint-Esprit. Comme dans toute la parole de Dieu, on voit qu'il y avait des onctions qui étaient faites avec cette huile-là pour oindre les sacrificateurs, pour oindre les rois. Était-il oint, Abimélec ? Non, il ne l'était pas. Pour oindre les prophètes. Et puis, bien sûr, on pourrait penser à Jésus qui a été oint du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Cette onction du Saint-Esprit, elle est sur nous, elle est sur l'Église. Cette onction nous enseigne, comme le dit l'apôtre Jean, l'onction, cette onction qui vient du Saint-Esprit, symbolisée là par cette huile de l'olivier, nous enseigne toutes choses. Ce Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, ce Saint-Esprit qui développe en nous le caractère de Christ afin que nous puissions les uns et les autres porter le fruit de l'Esprit. Cette onction du Saint-Esprit qui déverse aussi sur nous les charismes, les dons de l'Esprit dont l'Église a besoin aujourd'hui et après lesquels nous aspirons aux dons les meilleurs et nous avons besoin encore aujourd'hui de ces dons de l'Esprit, de cette plénitude de l'Esprit à laquelle l'apôtre Paul nous convie. Il nous invite à être totalement et en tout temps remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Il ne nous a pas laissés orphelins. Alléluia. Mais il dira même, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais le Seigneur a fait ce qu'il était nécessaire sur la croix pour chacun d'entre nous. Et alors que nous approchons bientôt de la date de Pentecôte, nous rappelons avec force que le temps est venu pour l'Église de recevoir dans la plénitude le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Allons-nous renoncer à ça pour aller planer sur les arbres? Je laisse la question en suspens et je vais y revenir. Et je vais parler du figuier. Alors le figuier, on sait que c'est aussi un arbre très présent, là encore, surtout le pourtour méditerranéen, qui produit un fruit délicieux, très nourrissant. Un arbre que nous voyons à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, aussi un arbre qui nous parle de la douceur de son fruit. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet arbre, le figuier, mais rappelons-nous aussi qu'il nous parle du caractère du Christ encore, Jésus qui se présente comme étant doux et humble de cœur, comme va produire la douceur du figuier, la douceur de son fruit. Mais il y a une particularité sur le figuier, et on pourrait lire certaines paraboles, on pourrait lire certains textes, notamment il est important qu'il soit entretenu, bien sûr, et qu'il reste consacré. Je crois que c'est important pour nous que les fruits que nous portons, ils sont pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Jésus va se présenter un jour devant un arbre, un figuier, qui ne portait pas de fruits. Il va le maudire. Ce figuier avait-il renoncé à certaines choses qui l'empêchaient de produire du fruit? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants et des moqueurs, mais qui plonge ses regards dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Heureux les justes, heureux ceux qui se confient dans l'Éternel, car il est écrit que même dans leur vieillesse, ils portent encore du fruit. Alléluia. Ils portent du fruit, comme le figuier va porter son fruit. Et nous bénissons le Seigneur. Car depuis le jour où nous l'avons connu, jusqu'au jour où nous allons le rejoindre, que ce soit à 40, 50, ou peut-être, que sais-je, 90, 100, plus pour les robustes encore, mais jusqu'au bout, nous portons du fruit pour le Seigneur. Et il se trouve même que la mort, encore, peut glorifier le Seigneur. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent. Merci Seigneur. Alors merci Seigneur, nous voulons te bénir Seigneur pour cette douceur qui nous vient du fruit de l'Esprit, qui est notre partage et que nous voulons communiquer autour de nous. Allons-nous renoncer à cela? Parlons maintenant de la vigne. La vigne, là encore, elle est très présente dans la parole de Dieu, symbole de bénédiction, On le voit à plusieurs reprises. Jésus prendra même cette image qu'il est le cep et que nous sommes les sarments et que si nous portons du fruit, il est monde afin qu'on porte encore plus de fruits pour la gloire du Seigneur. La vigne va produire le jus de raisin avec lequel, s'il est fermenté, bien sûr, cela va produire du vin. Ce vin, à consommer, bien sûr, avec modération, ce vin, symbole de la joie que nous produit la communion avec le Seigneur. Quelle joie débordante avaient les premiers disciples lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia, hein. Tel point que certains pensaient qu'ils étaient dans l'ivresse. Mais non, l'apôtre Pierre est obligé de dire, mais non, hein, ils sont pas ivres comme vous le supposez, c'est la neuvième heure. Non, pour eux s'est accomplie cette promesse de Joël, le prophète. Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Alors là, ils sont dans la louange, ils sont dans la joie, il y a cette communion qui est là. Et ça réjouit le cœur de Dieu. On voit ici que ce que produit la vigne va réjouir Dieu et les hommes. Et c'est cette louange que produit le Saint-Esprit, cette joie que produit le Saint-Esprit, cette joie de la communion avec Dieu, réjouit Dieu, agrée le Seigneur. Et comment ça nous fait du bien, ça nous réjouit aussi, alléluia. Ce vin aussi qui nous parle de cette coupe que nous prenons lorsque nous participons à la Sainte-Cène. Jésus nous avait parlé aussi de ce fruit de la vigne, qui nous parle du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est monté pour porter nos péchés, ce sacrifice que Dieu agrée, et qui nous fait tant de bien. Cette rencontre avec l'agneau de Dieu, une femme va le faire un jour, la femme samaritaine, elle qui était dans la frustration, l'insatisfaction, va connaître la joie. Elle va laisser sa cruche là et puis elle va dire dans tout son village qu'elle a rencontré le Messie. Alléluia, quelle joie! Quelle joie produit cette rencontre avec le Seigneur. Il y a un homme un jour qui n'a pas voulu renoncer à sa vigne, c'est Naboth. Acab lui proposait un potager à la place. Mais allait-il céder sa vigne pour des carottes et des navets? En plus, c'était l'héritage de ses pères. Et cet homme craignait Dieu. Donc il n'a pas voulu céder sa vigne, il n'a pas voulu renoncer à sa vigne. Cela lui a valu la mort. Parce que Acab était un roi malfaisant, marié avec une femme, Jézabel, j'en dis pas plus, une meurtrière, sans aucun état d'âme. Allons-nous renoncer à notre vigne? Alors le quatrième, c'est le buisson d'épines. Il est différent des autres. Parce que si les trois premiers nous parlent de la bénédiction de l'Éternel, ce quatrième-là nous parle au contraire de la malédiction. Et d'ailleurs, Jotham va se servir de cette image-là pour prononcer sa malédiction. Ça nous ramène à la chute d'Adam et Ève. Il y a eu une malédiction qui a été prononcée par Dieu suite à la chute d'Adam et Ève. La terre te produira des épines, des ronces. On voit ça dans le livre de la Genèse. Et puis on voit aussi dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, que si une terre est abreuvée par la pluie du ciel qui nous parle de la bénédiction, sans pluie, il n'y a pas de végétation. Et si cette terre produit une herbe fertile, alors elle participe, elle est utile à tous. Mais il est rajouté après, juste après, que si elle produit des épines, elle est prête à être réprouvée et on y met le feu. C'est ce qui va se passer pour Abimélec. Cette buisson d'épines produit une ombre éphémère et illusoire. Il propose aux autres arbres, donc aux habitants de Sichem, de s'abriter sous son ombre. Mais À l'ombre d'un buisson d'épines, il y a de quoi attraper un coup de soleil. Son ombre est éphémère, son ombre est illusoire, et être à proximité d'un buisson d'épines, c'est encourir des dangers. Parce que peut-être certains prédateurs s'y cachent, on peut s'y piquer, et ça prend très vite feu. On voit aussi dans une parabole, la parabole du semeur et des terrains, que ces épines peuvent étouffer le bon fruit, afin de l'empêcher à arriver à maturité. Alors, que voulons-nous choisir ? Allons-nous renoncer aux bénédictions spirituelles pour, entre guillemets, des bienfaits terrestres qui sont illusoires et éphémères ? Un homme l'a fait pour un plat de lentilles. Un homme l'a fait pour un plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il avait faim, la belle affaire. Il pouvait se priver d'un repas quand même, hein. On va dire, oh, mais un droit d'aînesse, c'est pas grand chose. À ses yeux, c'était pas grand chose. Il a méprisé, il est dit dans la Bible qu'il a méprisé ce droit d'aînesse. Mais il était attaché à ce droit d'aînesse une bénédiction spirituelle importante. Son frère, Jacob, lui, ça lui a pas échappé en tout cas. Il aspirait à cette bénédiction spirituelle. Et Ésaü a renoncé, en vendant son droit d'aînesse, à cette bénédiction spirituelle. Lorsque nous nous attachons aux choses d'ici-bas, à tel point que cela nous détache des biens spirituels, nous renonçons à ce que produit l'olivier, le figuier et la vigne. Nous ressemblons peut-être alors à ce moment-là à Marthe dans les évangiles, qui en avait perdu sa douceur et qui devenait accusatrice, aigrie, à la limite d'être méchante même, envers sa sœur. Tout ça par suractivité. Nous pouvons, comme dit l'apôtre Paul, commencer par l'esprit, et vous savez la suite malheureusement, finir par la chair. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et nous allons lire les versets 7 et 8. L'apôtre Paul écrit ces choses, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. » Paul était attaché au bien spirituel. On aurait pu lire au début du chapitre 3, ça aurait été intéressant pourquoi il dit ces choses. Parce que certains étaient retournés, c'était détournés de Christ, pour se placer à nouveau sous des règles judaïsantes, qu'il est privé de cette communion avec Dieu. Ces hommes-là renonçaient au bien spirituel, renonçaient à cette communion du Saint-Esprit, renonçaient à la présence de Christ dans leur vie, renonçaient à la grâce pour des choses éphémères et illusoires. Et l'apôtre Paul leur dit, mais au début du chapitre 3, il dit, mais si moi-même je voulais mettre ma confiance à la chair, je le pourrais, bien plus qu'eux, il dira. Il dira, je le puis bien davantage, verset 4. Il fera référence. Moi, j'ai été circoncis, je suis hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Tout cela, il pourrait le faire valoir, mais ce n'est rien. Il était même pharisien. Irréprochable, il le dira, à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses-là, qui étaient pour moi autrefois avant de connaître Christ, qui étaient pour moi des gains, maintenant je les regarde comme de la perte. Il dira même, je regarde comme de la boue. C'est sale, c'est dégoûtant. Même le terme grec va plus loin. On est gentil quand on traduit par de la boue, hein, en français. On veut pas toujours mettre le mot que l'apôtre Paul emploie parce que c'est un mot un peu dégoûtant. J'en dis pas plus. Mais ce que je veux dire par là, tous ces biens matériels auxquels parfois nous attachons tellement d'importance, rappelons-nous quand même que nous partirons sans ça, que c'est éphémère et que c'est illusoire. Et si nous attachons à cela, nous serons comme des masses. Nous ne voulons pas renoncer aux bienfaits que nous accorde le Seigneur en nous détournant de ces choses. Nous sommes semblables à cet homme dans cette parabole qui a trouvé un trésor dans un champ. Il est allé vendre tout ce qu'il a et dans sa joie, il a acheté ce champ. Alléluia, nous avons trouvé un trésor en Christ, inestimable dans ce monde. Nous ne voulons pas faire l'inverse maintenant. Nous ressemblons encore à ce marchand de perles qui en a trouvé une d'un prix inestimable, une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Ça nous parle du renoncement à nous-mêmes, ça. On ne peut pas gagner Christ sans ça. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté cette perle de grand prix. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous voulons rester attachés à notre Seigneur. Il y a tellement de choses qui insidieusement, petit à petit, pourraient nous détacher de Christ. Et vous savez, le diable, j'allais dire, il prend son temps avec nous. Petit à petit, insidieusement, par petites doses, on s'accoutume ainsi à certaines choses, à tel point que ça enlève notre consécration sans qu'on s'en rende compte. Ne nous mettons pas à l'ombre d'un buisson d'épines. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Et nous voulons nous rappeler cette promesse qui est attachée à notre appel, à notre vocation. Alléluia. Jésus, nous l'avons entendu, Maranatha, Jésus, viens bientôt. Alléluia. Ce monde est voué malheureusement à la destruction. Nous ne pouvons pas, ici-bas, avoir de demeures éternelles, mais nous en avons une dans les cieux que nous prépare notre bien-aimé Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Malheureusement, la prophétie de Jotham va se réaliser pour Abimélec parce que Abimélec était un homme dont les motivations étaient impures. Il avait soif de pouvoir. Et puis les gens de Sichem n'étaient pas aussi nets dans leur motivation, n'étaient pas clairs dans leur motivation. On fait les choses par intérêt. Et cela va entraîner une sorte de guerre civile et la mort d'Abimélec. Nous voulons vraiment nous recentrer sur ce que le Seigneur nous a confié. Nous voulons rester attachés à ce qu'il a mis dans nos cœurs en conservant cette plénitude du Saint-Esprit en nous, en produisant ce fruit de l'Esprit et en gardant ce vin, cette joie que nous procure la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va prier ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rappeler ces choses ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Et nous voulons être comme Naboth, qui a refusé de renoncer à sa vigne, de céder sa vigne, même si la menace était là. Seigneur, nous voulons rester attachés à ce que tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons garder le bon dépôt. Garder le bon dépôt, Seigneur. Sachant à quelle espérance tu nous as appelés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous avons tendance, sans même nous en rendre compte, à nous détourner de cette consécration, à nous détourner de cette communion, à nous détourner de notre premier amour. Aide-nous par le Saint-Esprit à nous ressaisir et à nous recentrer sur toi, sur les choses essentielles, sur ton service, sur cette communion avec toi. Rien ici-bas ne vaut ce que tu nous donnes. Tous les plaisirs de ce monde, tous les jeux de ce monde, tout l'argent de ce monde même, ne peuvent égaler ce quoi toi tu nous donnes. Oui, tu nous as donné cette perle de grand prix, ce trésor que nous voulons garder dans nos cœurs. À toi soit donc toute la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la force et la puissance. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur.